Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, auditrices, auditeurs de Radio Barthès 107 FM. Bonjour Émeric Sulmont.
Bonjour.
Bonjour Margot Lepetit.
Bonjour Virginie Guiroy.
Bonjour Léo.
Bonjour. Bonjour, comme d'hab, je me fais avoir. Je ne m'attends pas.
Et la blague. Eh bien, voilà, on débute 2025 et c'est l'occasion donc de souhaiter les meilleurs vœux, bien sûr, de santé à toutes et tous. Et puis, ben, aussi peut-être voilà, un petit message. Si cette année, du coup, il y a des petits chagrins, des petites angoisses, eh ben, n'hésitez pas. Allez en forêt, elle vous fera du bien. Voilà, non, mais c'est prouvé scientifiquement, hein, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
Tout à fait.
Bien sûr.
Et
on va laisser Margot donc présenter notre invitée qui est présente avec
aujourd'hui,
nous.
Aujourd'hui, on va parler de Natura 2000. Alors, que vous soyez en vacances au fin fond de la Suède ou en randonnée dans les Cévennes, vous pouvez tomber sur un panneau Natura 2000. Et du coup, on a voulu savoir ce que c'était. Et pour ça, on a invité Manik Vigourou. Bonjour.
Bonjour.
Qui est du coup chargée de mission Natura 2000 au sein du COPAGE. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que c'est le COPAGE ?
Oui, donc moi je suis chargée de mission Natura 2000 au COPAGE, qui est une association agri-environnementale en Lozère. Donc on va travailler principalement avec des agriculteurs, mais aussi avec des collectivités ou d'autres publics, sur toutes les questions qui lient environnement et agriculture.
Ok. Et du coup, le COPAGE est en charge de l'animation de site Natura 2000 sur l'ensemble du département de la Lozère ?
Alors, on s'occupe de l'animation de 6 sites Natura 2000 en Lozère pour le compte des communautés de communes qui portent la gestion des sites.
Ok.
Et vous êtes basé où ?
On est basé à Mende, à la Chambre d'agriculture.
Ok, merci. Et alors, toi, est-ce que tu peux nous parler de ton métier et puis peut-être aussi expliquer qu'est-ce que tu as fait comme formation pour être chargée de mission Natura 2000 ?
Oui, alors du coup, j'ai fait un master en écologie. Et ensuite, donc, je suis arrivée en Lozère pour ce travail de chargée de mission Natura 2000. Donc, ça consiste à animer toute la vie des sites, que ce soit le suivi scientifique des habitats ou des espèces, la contractualisation avec les propriétaires des sites, et puis toute une partie aussi de sensibilisation de divers publics et des acteurs locaux.
Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Natura 2000 ?
Oui, alors Natura 2000, c'est un dispositif qui repose sur deux directives européennes, donc la directive Habitat et la directive Oiseaux, qui vont répertorier toute une liste d'espèces et d'habitats qu'on dit d'intérêt communautaire, qui sont donc soit vulnérables, soit endémiques ou remarquables sur un territoire. Et ensuite, les sites vont être créés selon la présence de ces habitats et espèces. Et à l'échelle européenne, ça forme tout un réseau de sites dont le but est de concilier la préservation de la biodiversité avec les activités humaines, en prenant en compte donc toute cette biodiversité dans les différents projets ou activités des territoires.
Et donc le site que tu animes, quel est-il ? Où est-ce qu'il se trouve ?
Alors ici dans le secteur, donc, je travaille sur le site Vallée du Tarn, Tarnon et de la Mimente. C'est un site qui est porté par la communauté de communes Gorges-Causses-Cévennes, qui fait un peu plus de 10 000 hectares et qui s'étend le long des trois cours d'eau dont il porte le nom. C'est un site très varié, avec une grande variabilité de milieux, des altitudes qui vont de 500 à 1500 mètres, des roches très différentes selon les secteurs. On trouve des enjeux au niveau des milieux ouverts, que ce soit des landes ou des tourbières, des enjeux forestiers, avec beaucoup de chênaies, de châtaigneraies et de hêtraies, et puis des enjeux plutôt au niveau des milieux rocheux.
Et justement, du coup, sur ces enjeux forestiers, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont associées à ces enjeux-là, à ces milieux-là, ou voilà, est-ce qu'il y a des enjeux de préservation de ces milieux ?
Oui, il y a pas mal d'enjeux sur les chênaies et les hêtraies, qui comportent aussi pas mal de forêts anciennes et de vieux bois. avec beaucoup d'arbres à cavité qui vont abriter de nombreuses espèces. Donc dans le site, on a pas mal d'espèces de chauves-souris, dont certaines qui vont utiliser les cavités des arbres, comme la barbastelle par exemple. Et il y a aussi beaucoup d'insectes qui sont liés à ces milieux. Donc on dit des insectes saproxyliques, donc ça veut dire qu'ils dépendent du vieux bois au moins une partie de leur cycle de vie. On peut citer le lucan cerf-volant ou la rosalie des Alpes, qui sont un peu plus connus que les autres. Mais on a aussi le pic-prune, qui est un des enjeux les plus forts du site. Donc c'est aussi un coléoptère saproxylique qu'on trouve beaucoup sur les chênes et dont l'adulte va pondre dans les cavités des vieux arbres. Et la larve va s'y développer pendant en général 2 à 3 ans en se nourrissant du vieux bois pour ensuite devenir adulte et reproduire le cycle une deuxième fois.
Et du coup, ces espèces, comment vont-elles aujourd'hui sur le site dont tu as la charge ?
C'est des espèces qui se portent pas toujours très bien parce que il y a de moins en moins de vieux bois dans les forêts, donc elles sont assez affectées par ça. Après, nous, on met en place des suivis pour essayer de voir l'évolution des espèces. Donc, au niveau du lucan et de la rosalie, il y a aussi une enquête nationale à laquelle tout le monde peut répondre. Donc, si vous observez chez vous ces espèces, vous pouvez aller sur le site de l'OPI pour retrouver cette enquête.
Alors, OPI, ça s'écrit
O-P-I-E.
Voilà, pas de piège.
Et au niveau du pic prune, on essaye de répertorier les secteurs, donc aussi avec le parc national des Cévennes, où ces espèces sont présentes pour essayer de mettre en place après des mesures pour conserver ces arbres où on trouve les espèces.
Et justement, du coup, tu abordes les mesures. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour préserver ces espèces-là ou ces milieux particuliers ?
Donc un des moyens dans les sites Natura 2000 d'agir pour les espèces, c'est de mettre en place des contrats. Donc tous les propriétaires en site Natura 2000 peuvent y souscrire. Donc c'est financé à 80% pour les propriétaires publics et à 100% pour les privés. Et on a notamment la création d'îlots de sénescence. Donc c'est des îlots dans les forêts qu'on ne va pas toucher pendant 30 ans pour laisser se développer et vieillir le bois.
C'est-à-dire qu'on ne coupe pas d'arbres, on ne fait pas d'exploitation forestière sur ces zones-là ?
C'est ça. Donc c'est soit des arbres isolés, soit tout un îlot qu'on laisse.
La surface à peu près de ces îlots, comment ça...
Ça peut varier selon les secteurs.
D'accord. En fonction des enjeux.
Oui, c'est ça. Et donc en échange, les propriétaires sont dédommagés parce que ça se fait en forêt exploitée. Et le dédommagement se fait selon la taille des arbres et les essences.
Ok, donc en fait le propriétaire s'engage à ne pas couper les arbres et en dédommagement le contrat vient financer la perte financière qu'il aurait pu avoir en exploitant sa forêt.
Oui, c'est ça.
Ok.
Il y a d'autres contrats qui peuvent exister comme l'irrégularisation des forêts. Donc par exemple remettre des feuillus dans une forêt de conifères ou sur d'autres thématiques comme l'aménagement de gîtes pour les chauves-souris.
Ok. Et après j'imagine qu'il existe aussi des contrats pas forcément spécifiques forestiers. En fonction des enjeux qu'il y a sur le site.
Oui, en fait, tout ce qui peut servir à améliorer la conservation des habitats et des espèces peut faire l'objet d'un contrat. Mais il y a quand même toute une liste qui existe, mais c'est assez ouvert. Et ensuite, c'est priorisé selon les habitats et les espèces qu'on juge comme prioritaires dans les sites.
Et pour revenir du coup au contrat forestier, donc sur le site que tu animes, il y en a en ce moment, certains propriétaires ont contractualisé.
Il y a un seul contrat qui a été fait encore dans le site parce qu'il n'est pas animé depuis très longtemps. Et c'était un contrat pour remettre en état une châtaigneraie qui n'était plus exploitée et dans laquelle plusieurs espèces peuvent s'y développer, notamment les insectes dont on parlait.
Et alors du coup, si on a des propriétaires forestiers qui nous écoutent, comment ils peuvent faire déjà pour savoir s'ils sont concernés par le zonage Natura 2000 et après, si c'est le cas, pour te contacter ou contacter tes collègues ?
Alors pour savoir si on est dans le site, le plus simple, c'est d'aller regarder sur Géoportail. Il y a tous les périmètres de tous les sites Natura 2000.
Donc géoportail.gouv.fr.
Oui. Okay. Et sinon, il y a un site internet de ce site Natura 2000 qui est... tarnonmimainte.natura2000.fr.
Ok.
Et on peut nous contacter donc au COPAGE, soit par mail, soit par téléphone. Donc tout se trouve aussi sur le site internet du COPAGE.
Ok, super. Et après, du coup, c'est vous qui venez voir sur le terrain et qui venez faire un peu un diagnostic de voir ce qui est intéressant de mettre en place.
Oui, c'est ça. On en discute avec le propriétaire, on fait un tour sur le terrain pour répertorier les enjeux et voir ce qu'il est possible de mettre en place.
Ça dure combien de temps à peu près un contrat Natura 2000
le contrat, il est valable pendant 5 ans. Mmh. Donc, tout ce qui est paiement, donc ça, soit c'est un remboursement des travaux qui est au moment des travaux, soit le paiement se fait sur 5 ans, comme pour les îlots de ses naissances. Et après, pour ce qui est de la mise en place du contrat, ça peut prendre quelques mois, le temps de faire toutes les démarches.
Ok, merci. Et on ne le cache pas, il y a certains habitants parfois qui abordent Natura 2000 en disant « Ouh là là, c'est une contrainte voilà, ». Que répondre à ça ?
Il y a assez peu d'aspects réglementaires sur Natura 2000. Pour le côté réglementaire, c'est plutôt tout ce qui est évaluation des incidences pour certains projets ou événements qui vont avoir lieu sur le territoire. Par exemple, pour un événement sportif, on va regarder où passe l'itinéraire, si c'est une course, pour voir s'il y a des enjeux particuliers et est-ce qu'il y aurait besoin de peut-être décaler ou non. Sinon, c'est plutôt basé sur du volontariat, donc avec les contrats, comme on disait, ou avec des chartes.
C'est volontaire, ouais. Qu'est-ce que c'est les chartes ?
Donc il y a une charte activité qui est une sorte de liste de bonnes pratiques auxquelles certaines associations ou certains pratiquants d'activités peuvent signer. Mmh. Et donc ils s'engagent à respecter ces bonnes pratiques. Et en échange, c'est une sorte de valorisation de leur activité.
Ok, merci. Est-ce que tu aurais un petit mot forestier à ajouter ? On propose à chacun de nos invités.
Oui, du coup, je voulais partager un souvenir de ma dernière sortie en forêt, qui était plutôt côté Nord-Lozère, et où justement, je faisais une prospection sur une forêt qui est engagée dans une charte Natura 2000. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir un hibou grand-duc s'envoler du haut d'un arbre en bordure de forêt.
Et alors, les sensations ?
C'est pas une observation qu'on peut faire tous les jours, donc c'était plutôt une chance... de pouvoir l'observer là.
Ouais, on revient sur ce que disait Virginie en introduction de l'émission. Promenez-vous en forêt. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Monique.
Merci. De rien, merci à vous.
Eh bien, la petite pause musicale, c'est Léo qui nous a choisi une musique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va écouter ?
J'ai découvert un petit truc il n'y a pas longtemps. C'est de l'artiste Kadzen Jammer. Ça s'appelle Démon qui tirague.
Et tu l'as découvert où ?
Sur Radio Barthes.
Sans cette FM.
êtes toujours sur Radio Barthas, dans l'émission Palabre en forêt. Et maintenant, on va écouter Aymeric Sulmont.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Alors, Aymeric, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Oh, grand mystère. j'imaginais que j'allais parler d'espèces Natura 2000, tout ça. Puis non, tu en as très bien parlé. Tu as notamment parlé de l'osmoderme, que j'aime beaucoup. Tu as oublié de dire qu'il sentait l'abricot. Ça, c'est vraiment un insecte extraordinaire. Mais bon, on ne va pas parler de l'osmoderme. On en a déjà parlé dans une autre émission, il y a un petit moment, je pense. Vous avez deviné de quoi je vais vous parler.
Non,
je vais vous parler de la mousse, mais pas celle que vous croyez. Pas celle qui se boit et pas celle sur laquelle on s'assoit en forêt.
Ah.
Une autre mousse qui s'appelle la mousse. La mousse des chênes ou la mousse des arbres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression ?
Ah, pas du tout.
La mousse des arbres, la mousse du chêne. Et pourtant, c'est un truc qui a été beaucoup ramassé, notamment en Lozère. Les départements un peu sauvages comme le nôtre sont des lieux où on en trouve beaucoup. Et c'est vraiment une observation à faire à pile poil en ce moment. Il n'y a plus de feuilles aux arbres. Et quand vous êtes dans des endroits de fin fond de vallée comme Florac, c'est pas mal, ça marche assez bien. Et que vous avez des chênes ou d'autres feuillus.
Tout chêne vert, blanc.
Dans des contextes où les brouillards stagnent l'hiver, vous voyez.
Ah oui, ça, Florac, ça colle bien, on est là.
Et ben, vous regardez les chênes et vous apercevez qu'ils sont très couverts de cette mousse qu'on appelle, en fait, c'est un lichen. C'est ce lichen qui est tantôt jaunâtre, tantôt gris et qui peut, faire crouler les arbres, cette espèce de, on a l'impression qu'ils sont morts ces arbres, mais en fait ils sont vivants.
C'est vrai.
Ils sont donc couverts. Et ça, c'est ce que les anciens et que depuis très longtemps appellent la mousse des arbres ou la mousse du chêne, parce que souvent on la trouve sur chêne. Et ça a plein de propriétés et c'était beaucoup utilisé. Alors il y a un défaut, c'est que ça s'appelle la mousse alors que c'est pas du tout une mousse, mais bon, ça on verra ça. Donc c'est deux principaux lichens en fait qui sont très très abondants. Qui ont vraiment fait partie d'une petite économie localement et qui, d'ailleurs, il y a encore des cas de gens qui ramassent cette mousse, enfin ces lichens en Lozère. Aujourd'hui, la plupart des récoltes sont faites très très loin d'ici, en Europe de l'Est. Ils ont plus une culture ramassage. Et donc, il faut des coins peu pollués, comme je disais, avec des brouillards stagnants l'hiver. Donc, on peut l'avoir aussi dans les vallées de... En garrigue, vous avez des coins où ça pourrait se ramasser parce qu'il y a des sortes de petites dépressions où les brouillards stagnent un peu l'hiver.
On est d'accord, c'est sur les chênes blancs.
La plupart des feuillus, en fait, y compris du moment qu'ils sont dans des contextes de zones de cuvette, de dépression, où tu...
D'accord, où tout type de chêne.
Voilà. Et à quoi ils ressemblent ? Ça ressemble à des petits arbuscules un peu gris ou jaune. Il y en a deux, comme ça. Très ramifié. Je vais insister. Alors, je peux vous donner deux noms, comme ça vous aurez des noms un peu latins. Evernia et Pseudevernia, c'est les deux noms. Evernia, ça veut dire branchu, en fait. Et c'est quelque chose qui est déjà très branchu et qui pousse sur des branches. Voilà l'idée. Ils ont d'abord plein de propriétés. Je ne sais pas par lesquelles commencer, tellement il y en a plein. La première, c'est une des raisons pour laquelle il est encore ramassé aujourd'hui, c'est que c'est un fixateur de parfum très efficace. C'est qu'il a, la propriété d'améliorer la durée de vie d'une odeur et d'empêcher sa corrosion, parce qu'il a des propriétés antioxydantes. Et du coup, le parfum dure plus longtemps quand on utilise l'eau de mousse de chêne ou l'huile de mousse de chêne. Elle a cette propriété-là, donc elle est souvent utilisée en adjonction de parfums. Et il y a des grands noms que je ne vais pas citer ici, de la parfumerie française, qui utilisent ces produits issus de ces deux lichens.
Tu peux faire de l'huile de lichen ? Tu fais infuser
l'huile ? Alors, le procédé exact pour retirer les substances actives des lichens, je ne le connais pas. Je pense que c'est les chimistes qui maîtrisent ça. Mais ça reste à moi un lichen qui était utilisé depuis très longtemps. Je peux citer d'autres usages. Les Égyptiens l'utilisaient déjà dans leur momie pour pour fixer tous les onguents, toutes les matières odorantes. Ça a aidé à faire durer les produits qui servaient à momifier les momies. Donc ça a été déjà utilisé là. Ça servait, même les Égyptiens l'utilisaient broyé pour parfumer et même aider à la conservation de leur pain. Donc il y avait aussi un usage culinaire.
Ah, donc c'est comestible alors ?
Alors c'est comestible, moyen, une préparation que je ne connais pas, donc je ne préfère pas vous dire okay. Allez brouter vos arbres dans la forêt. Non. Je pense que c'est avant tout très amer. Hein, les quelques essais que j'ai essayé, moi, de lichen, ça demande une préparation. Il faut se méfier, il y a quand même beaucoup, beaucoup de molécules dans un lichen. Il y a également des molécules tinctoriales dans ce lichen-là, et qui a permis aux Romains de colorer en violet leur toge.
Ah ouais, donc, ça donne du violet.
Ça donne du violet. Alors, le procédé chimique, hein, pour ça, vous ne connaissez pas, mais vous essayerez à la maison. Donc, tinctorial pour faire du pain, pour momifier votre voisine, peu importe, si vous avez besoin de momifier quelqu'un. Qu'est-ce que je disais donc, on a dit fixateur de parfum. C'est classiquement, comme beaucoup de lichens, ils détestent les polluants, les lichens. La plupart. Il y en a certains qui les tolèrent et du coup, quand ils sont là, on se dit « Oula, c'est que ça craint », puisqu'il n'y a plus que cela. Mais en général, voilà, les lichens ont tendance à disparaître quand il y a un air qui est trop pollué, au profit de quelques résistants. Quoi. Et donc, celui-là, comme beaucoup d'autres, on peut considérer comme un indicateur de polluant quand il est bien présent et bien abondant, ça veut dire que ce n'est pas trop pollué. Donc voilà, c'est une petite propriété. Et évidemment, ça, c'est les dernières recherches qui le disent, en dehors des propriétés tinctoriales, etc., d'onguents, etc. Il y a des propriétés antibiotiques, antioxydantes, anticancéreuses qui sont beaucoup étudiées. Parce qu'il avait des propriétés médicinales autrefois qui étaient utilisées pour les intestins, pour la fièvre, pour les poumons, etc. Mais ce n'est pas celles-là qui retiennent aujourd'hui et qui sont à la mode, entre guillemets. C'est plutôt voilà, les propriétés antibiotiques, anticancéreuses, qui sont vraiment, comme d'ailleurs plein d'autres lichens. Hein, et au sens plus large, les champignons sont beaucoup considérés comme un sacré réservoir de biodiversité pour des molécules qui ont des propriétés anticancéreuses. Donc il est étudié aussi pour ça.
Et on le trouve plutôt dans des forêts jeunes ou anciennes ?
Eh bien, du moment qu'il y a des chênes. Alors, les chênes, souvent, en Cévennes, les chênes ont énormément souffert de la monoculture du châtaignier. Mmh. Et vous savez que sur toute la partie méridionale, il y a très peu de chênes blancs, c'est-à-dire le chêne pubescent ou le chêne sessile, parce que le châtaignier a été planté en masse. Côté atlantique, on a davantage d'anciens pâturages qui étaient boisés avec des chênes dedans. Mm-hmm. C'est d'ailleurs dans les plus vieux pâturages de chênes boisés qu'on retrouve l'os moderne, puisqu'il se maintient sur des très vieux chênes. Et ces lichens-là vont, je disais, indifféremment s'implanter sur toutes les petites branchettes. Okay. De tous ces arbres feuillus. Ça peut même aller sur des pruneliers, des aubépines, n'importe quel feuillu. Ça peut, pour son copain, parce que je parle que d'un lichen qui s'appelle Evernia prunastri, hein, qui est un peu jaunâtre, et l'autre, Furfuraceae, il peut pousser sur tous les pins, qui est un autre lichen qui a les mêmes propriétés, alors à deux doigts près, parce qu'il y en a un, ça c'est pour ceux qui vont faire du parfum avec un, il y en a un, le jaune, celui qui pousse plutôt dans les chênes, lui, il va avoir un impact sur les parfums qui lui donnent une odeur un peu boisée. Alors ça, on considère que c'est pour les parfums masculins. Mmh. Alors que l'autre, qui s'appelle Pseudevernia furfuracea, qui est plutôt gris, plutôt dans les sapins, lui, il a un impact plutôt odeur marine. Ça, c'est plutôt visé pour les filles. Voilà, ça, c'est les grands classiques de la parfumerie. Moi, je ne connais pas plus. Hein. Après, vous irez étudier comment vous voulez fabriquer votre parfum avec ces lichens, peut-être. Mais il y a plein d'histoires assez rigolotes sur ces usages-là.
Si on se met en tête, du coup, d'aller ramasser du lichen, il n'y a pas des bonnes pratiques à avoir?
Oui, tout à fait. Je préfère préciser qu'en zone cœur du parc, ça n'est pas malheureusement une des 50 plantes autorisées à la cueillette, même de manière artisanale. Après, c'est quand même une niche écologique vraiment extrêmement. Il faut ramasser des kilos et des kilos. Il fallait passer des heures et des heures pour espérer faire 3 sous. Donc, ce n'est pas un gros potentiel d'argent. Et je vous dis, les pays de l'Est sont beaucoup plus efficaces que nous. Ils ont ça dans le sang. Puis ils n'ont pas perdu, on va dire. Puis ça m'a... Le fait de rechercher les usages, notamment en parfumerie, là, de ces deux lichens, hein, qui c'est vraiment très ancien comme usage, ça m'a fait découvrir deux mots. Ouais, je ne sais pas si vous les savez. Le premier mot, c'était le mot... la note chyprée d'un parfum. Ouais, figurez-vous que quand vous mettez ce genre de lichen dans votre parfum, eh ben vous lui donnez une note chyprée.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, une note chyprée?
Eh ben, tu chercheras. Non, c'est une note boisée. Mais en fait, c'est, du coup, quand tu vas chercher pourquoi ça s'appelle chyprée, ben ça remonte à très très longtemps. Ça remonte certainement au grec, donc à l'île de Chypre, etc. Ah. Un lieu où transitait énormément de substances odorantes, de l'encens, etc. Donc il y avait plein de produits qui transitaient par cette île, qui a fait qu'on a fini par utiliser ce terme chyprée pour tout ce qui était un parfum un peu boisé. Mais ils utilisaient à l'époque, ils faisaient des mélanges d'odeurs pour assainir une maison. Ils balançaient dans le feu ce qu'ils appelaient, c'est un autre mot que j'ai appris, comme ça vous aurez tous les mots que j'ai appris aujourd'hui. Ils balançaient une trochisque. Alors, qu'est-ce qu'une trochisque? C'est une sorte de petit pain d'odeur broyée et durcie, une sorte de mini pain de sucre, qui balançait dans le feu et en se consumant lentement. Il y avait sûrement un peu d'encens, il y avait du musc, il y avait plein de trucs dedans, et des plantes. Et bien, ça faisait un encens naturel dans votre maison et ça bonifiait l'air, enfin, assainissait l'air. Voilà, avec chypre et trochisque, voilà, vous êtes bien barrés. Je ne sais même pas des mots qui vont rapporter cher au
Scrabble. Pour briller en société.
Chypre peut-être, parce qu'il y a un Y encore. Voilà. Bon, tout ça, et j'aime bien parce que c'est parti de la mousse. La mousse, c'est mon truc favori, en fait, ce n'est pas du tout une mousse. Et donc, on a dérivé vers les lichens, on a dérivé vers les parfums, chose que je ne connais pas du tout. Et voilà, voilà. C'était ma petite note pour démarrer l'année sur ces petits lichens et que vous avez sûrement à côté de chez vous, on a en masse. Donc amusez-vous bien à faire des parfums.
Merci Mouric.
Merci Mouric.
Bonne année. Parfumé.
Margot, tu vas nous parler peut-être d'un événement qui a lieu en février.
Tout à fait. Il y a des Floraquois qui sont motivés là depuis 2 ans. Je crois que c'est la 2e édition à organiser un festival de jeux qui s'appelle le Floracopoli, où il y a plein de choses à faire sur le week-end. Et avec une collègue du parc, Juliette, on va proposer de découvrir le jeu Forêt Vivante le samedi 1er février après-midi. Ça sera à l'Encrier. C'est un jeu qui a été développé par le Parc National des Cévennes avec le CNPF. Et l'idée, c'est de découvrir un peu la gestion forestière et la biodiversité sous la forme d'un jeu de gestion de ressources type Catan, pour ceux qui connaissent. Donc ça va être super.
Ah oui, je peux confirmer, on s'amuse beaucoup. Hein,
donc il y aura tout bientôt des informations sur le site du Floracopoli. Il y a une session sur inscription et l'autre qui sera libre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir à l'Encrier le 1er février après-midi à Florac. Voilà.
Super. Et oui, on vous invite aussi en ce début d'année à aller sur notre site internet forêtcosseven.fr. Vous y trouverez sur la page d'accueil un endroit où on peut s'inscrire pour avoir la newsletter des chartes forestières. Et ben voilà, c'est pour avoir des nouvelles donc sur les actualités forestières. Il y a des articles, les événements qui vont se dérouler dans l'année, de la part des chartes et de l'ensemble des partenaires Forêt-Bois du sud de Lozère-Norgard.
Voilà, donc forêtcosseven.fr, le site des chartes forestières Cévenoles. Et ben voilà, merci tout le monde.
Merci.
Ah, Émeric.
Ah, moi je fais un petit appel aux auditeurs, mais c'est ça m'étonnerait que j'ai des réponses, mais on ne sait jamais. Si vous avez des interrogations ou des thèmes de bestioles ou de plantes que vous avez envie de développer, moi je veux bien vous aider à faire des recherches là-dessus et d'en parler à l'occasion de cette émission.
Trop bien. Et alors on fait comment? On contacte Radio Barthes?
Un petit message.
Oui, voilà.
Radio Barthes.
Par exemple.
Je veux que vous parliez de ça.
Voilà. Vous allez sur le site internet radiobarthes.net où vous trouverez tous les contacts et les
notamment l'adresse mail de Radio Bartas qui est contact@radiobartas.net.
Et voilà.
Super.
Et puis réécouter les anciennes émissions.
Bien sûr.
Voilà.
Eh ben, on se dit au mois prochain.
Oui.
À bientôt.
Salut Manik, merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Palabre.
En forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.